La dernière fois, nous avons vu qu'il y a trois manières principales pour le Christ d'entrer en relation de communion personnelle avec chacun d'entre nous. Ce sont tous les noms, et invoquer un des noms du Seigneur, c'est déjà commencer à entrer dans la pleine communion, c'est une anticipation du ciel. Il y a aussi son visage, et puis son cœur. Ce sont trois manières complémentaires. Elles sont bibliques et rappelées au cours des siècles par tous les saints. Les saints sont les grands interprètes, de la foi de l'Église. Ils sont la preuve vivante de l'Évangile, l'Évangile vécu, expérimenté. Le Christ, vrai homme et vrai Dieu, l'année dernière, nous avons fêté les 1700 ans du Concile de Nicée. Les conciles qui forment le contenu de notre foi, il y a comme une alternance. Une fois, on insiste sur la divinité du Christ, et la fois suivante, on est obligé, pour contrebalancer, d'insister sur son humanité, jusqu'à arriver au septième, qui est Nicée II, en 757. Mais le premier concile, il y a eu un très beau texte de l'Église qui est sorti pour les 1700 ans. Ça vaut vraiment la peine de le travailler, en groupe de prière, par exemple. Ce n'est pas un concile parmi les autres, c'est le concile. Et les six autres et toute la foi de l'Église ensuite sont un développement, des précisions données sur le concile de Nicée. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est là qu'a été formulée la double essence dans la personne du Christ. Le terme de notre credo en latin, le symbole de Nicée-Constantinople, dit consubstantiel au Père. Alors c'est déjà une belle correction par rapport à la version des années 60-70 de même nature, parce que de même nature, c'est chacun la sienne et puis elle est identique, donc ils sont un peu séparés. Mais en même temps, c'est pas tout à fait satisfaisant non plus consubstantiel, parce que le terme, il est gravé en grec dans la basilique Saint-Pierre de Rome, ce qui a été précisé dans les conciles, c'est homoousios, ça veut dire coessentiel. Nature, ça veut dire quelqu'un qui est né. Or, Dieu le Père, déjà, il n'est jamais né. Et quand on dit consubstantiel, substance, ça vient de substarer, se tenir en dessous. Alors, en dessous de qui se tient Dieu le Père? De pas grand monde. Et donc le terme grec est plus précis, coessentiel. Alors on ne va pas changer de credo, parce que Benoît XVI a bien dit, on le prie comme il est en latin, pour respecter l'histoire de nos pères. Il y a d'autres petits problèmes dans la traduction latine, mais pour ce qui est de l'essence de Jésus, le terme plus précis en grec, donc il est vrai homme et vrai Dieu, coessentiel au Père. Et ça, c'est très important de le confesser pleinement, parce que c'est un équilibre qui n'est pas évident à tenir et qui reste un scandale pour l'intelligence. Ça vient du mystère de l'incarnation, un des trois mystères de notre foi avec la Trinité et la rédemption. Et on n'aura peut-être pas assez de l'éternité pour saisir ce grand mystère. Alors nous le verrons heureusement face à face, en tout cas ceux qui se laissent sauver par la grâce divine. Mais il y a toujours des tentations de considérer Jésus seulement comme un sage maître de morale, des récupérations gnostiques et une forme d'arianisme. Arius était prêtre d'Alexandrie et il niait la vraie essence divine de Jésus. Et ça, c'est présent aussi, malheureusement, dans nos liturgies, par exemple, quand on fait du Christ simplement un bon ami. Il est un vrai ami, c'est vrai, mais il est aussi vrai Dieu. Et donc, si on déverticalise notre manière de prier, dès que l'on touche à la manière de prier, le problème, c'est qu'on touche aussi au contenu de la foi. Et ça a fini par éloigner de nombreuses personnes parmi nos contemporains de la foi de l'Église, parce que si c'est pour adorer un homme, il y a d'autres héros aussi intéressants, peut-être que un rabbi de Galilée il y a 2000 ans. Donc il faut aussi qu'il soit vraiment Dieu et que ça se voit dans rien que le fait d'être présenté comme fils de Dieu au singulier dans l'Évangile, ça exprime sa communion éternelle avec Dieu le Père. C'était annoncé dans le psaume 2 et Alors, la Trinité, qui est un des autres grands mystères de notre foi, nous avons dit la dernière fois que le mot mystère, ça vient de muéo, qui veut dire faire silence devant une réalité infinie que je peux toucher, mais pas englober. Eh bien, une des manières de décrire la Trinité, c'est la famille de Dieu, Éphésiens 2:19. On traduit parfois la maison de Dieu. Vous êtes de la famille ou de la maison de Dieu. C'est le même terme en grec, oikos. Dans l'Ancien Testament, on dit dans certains psaumes, vous êtes des fils, par exemple. Jésus cite ce passage d'un psaume. Mais quand c'est le fils, là, il s'agit vraiment de la personne de la Trinité, qui n'est pas tellement un problème pour nos cousins juifs dans la foi. Pour eux, la pierre d'achoppement, le scandale, c'est l'incarnation, c'est pas la Trinité. Parce que dès le deuxième verset de toute la Bible, il est dit que l'Esprit planait sur les eaux. Le Verbe éternel, pour eux, c'est la Torah vivante, c'est pas gênant non plus. En revanche, que Dieu infiniment grand vienne dans 3 kilos de chair vagissante qui remplit ses couches, ça reste scandaleux pour l'intellect humain quand on a une idée trop humaine de la grandeur. C'est ce que les musulmans refusent aussi, les témoins de Jéhovah également. À Bethléem, par exemple, ils ont rajouté l'appel à la prière du Mouedzin. Mouedzin, ça vient de Aza, ça veut dire l'appel, celui qui appelle à la prière. Un extrait de la sourate 17 qui dit « Dieu ne peut pas avoir de fils ». Ils n'arrivent pas à concevoir ça. Pour eux, ça dépasse trop l'intellect. Mais pourtant, c'est ce que l'Ancien et le Nouveau Testament révèlent. Et donc, ça fait partie, c'est le cœur de notre foi, ce qu'on appelle parfois l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union dans la personne de Jésus, d'une vraie essence divine et d'une vraie nature humaine qui n'est pas écrasée par l'essence divine. Sa personne est divino-humaine. Et tout ceci s'appuie sur les Écritures. Nous n'allons pas détailler tous les versets qui révèlent la vraie humanité et la vraie divinité de Jésus, mais c'est vraiment un sujet à creuser pour fortifier notre foi. Une foi qui ne s'exerce pas, la foi c'est comme un muscle. Et qu'est-ce qui se produit quand on n'emploie pas un muscle? Il s'atrophie et on devient des grabataires, donc des grabataires spirituels. Le chrétien, toute sa vie, est médecin de sa propre âme et de l'âme de son prochain. Et un bon médecin, sur la terre, il se forme toute son existence, la formation continue. Combien plus pour le soin de l'âme, c'est important. Pas uniquement pour notre nombril, mais pour la santé de l'Église et du monde entier. Le salut passe par nous. Quand Tertullien a dit, Cyprien de Carthage, je vous demande pardon, dit « hors de l'Église, pas de salut », ça ne veut pas dire qu'un protestant ou un bouddhiste ou un musulman ne peut pas être sauvé, mais que Dieu a disposé que tout le salut passe par l'Église. Et donc notre mission, c'est d'être comme Marie, un canal ou un cristal pour la grâce et transmettre ce que l'on reçoit. Le mot « catholique », ça ne veut pas dire seulement « universel ». Le préfixe grec kata, kata olon, selon le tout, ça veut dire universel, mais c'est aussi le préfixe qui contraste avec le ana. Ana, ça veut dire en haut, et kata, c'est en dessous. Donc ça nous dit que notre mission, c'est d'être à genoux, en dessous de nos frères, pour les servir, pour leur laver les pieds, comme le Christ l'a demandé au Cénacle. Alors, certains versets de l'Écriture révèle soit la divinité, soit l'humanité de Jésus, et d'autres, à la fois les deux essences, divine et humaine, en une seule phrase. Et ça, c'est ce mystère de l'union hypostatique, c'est-à-dire dans l'hypostase ou la personne de Jésus. Ce sont des termes un peu complexes, en effet, mais c'était nécessaire de passer par là pour pouvoir exprimer de façon universelle la foi chrétienne, sinon elle serait restée la doctrine d'une secte juive parmi tant d'autres, avec des faux messies dont nous avons parlé la dernière fois. Dans le signe de croix, c'est ce nom qui a été imprimé sur nous et à jamais, éternellement, c'est indélébile pour l'éternité, le jour de notre baptême. Et nous le répétons, ce geste. Il s'agit de ne plus le faire comme un ventilateur, mais avec intériorité. Et remarquez bien que c'est un nom au singulier. On ne dit pas au nom au pluriel, AUX, NOMS, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est le nom qui est un des trois personnes divines. Et alors, un petit exercice, il y a neuf sens possibles de ce signe de croix. Tout d'abord, c'est une confession des principaux mystères de la foi chrétienne. Alors la Trinité, c'est assez évident parce qu'on nomme les trois personnes divines. L'incarnation, parce que le geste est fait en descendant, la descente du Fils, et la rédemption par la croix avec la barre transversale. Et donc ça inclut aussi la rédemption. Le troisième mystère, parce que nous sommes sauvés par la croix. Les chrétiens orientaux accolent trois doigts, comme sur les icônes, on le voit, qui représente ce mystère de la Trinité, et aussi un doigt, ces trois doigts se replient dans la paume. S'il y en a trois qui sont unis, les deux autres sont plus bas vers la paume, eux, ils représentent la double nature ou essence de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Alors que la version catholique, on ne va pas passer au mystère avec des termes philosophiques comme cela. On applique, c'est aussi une belle tradition complémentaire, les cinq plaies de Jésus sur nous pour lui demander la grâce du salut. Tu es mon sauveur, par tes cinq plaies sur la croix, je les applique sur tout mon être. Alors Jésus avait beaucoup plus que cinq plaies seulement. Sainte Brigitte de Suède a eu cette vision de 15 plaies par jour de l'année, donc fois 365. Mais après sa résurrection, il a décidé d'en garder cinq non cicatrisé comme témoignage, ses deux pieds, sont les pieds de celui qui porte l'Évangile, selon Isaïe 61, ses deux mains, et puis le cœur ouvert, évidemment. D'après vous, à quelle heure a eu lieu la transfixion, c'est-à-dire l'ouverture du cœur de Jésus le Vendredi Saint? Si c'est entre sa mort, la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, puisqu'on compte depuis le lever du soleil, et avant le Shabbat, la tombée de la nuit vers 18h au Moyen-Orient au mois d'avril, ça veut dire que c'est vers la 10e heure. Or, on comprend un horaire dans l'Écriture par les autres événements qui sont produits à la même heure. Ça, c'est vraiment la clé d'interprétation importante, la première technique de base pour comprendre les Écritures, éclairer les Écritures par les Écritures elles-mêmes. Psaume 36, 10, « Dans ta lumière, nous voyons la lumière. » 1 Corinthiens 2, 9, « Comprenez par l'Esprit ce qui vient de l'Esprit. » Les Juifs appellent cela la Gezerah Shava, répétition de racine. Et donc la 10e heure, qui se trouve au moment de l'ouverture du cœur, c'est exactement l'heure où au tout début de l'Évangile, il y a eu cette question au Christ, « Maître, où demeures-tu ? » Eh bien, la réponse, elle vient à la fin. Et où est-ce que le Christ demeure ? Où puis-je le rencontrer ? Où est ma vraie maison ? C'est le cœur ouvert de Jésus. Et donc, ceci... Faut, si on peut l'intérioriser, le prendre en compte quand on fait le signe de croix et que nous appliquons sur tout notre être, toute notre existence, les cinq plaies du Seigneur, dont celle de son cœur ouvert. Alors, le nom du Seigneur est représenté par le signe de croix. Quand on dit le nom du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est le tétragramme qui est unique. Il n'y a pas d'autres religions cananéennes, païennes, dans le monde entier, avec le tétragramme, les quatre lettres, qu'on met parfois en français, YHWH. Et alors, en hébreu, le Y, c'est le yod, la plus petite lettre, ça symbolise le Père qui est à la tête de tout. On commence par là. Ensuite, il y a le Vav, qui est comme un W, c'est la lettre qui descend, c'est une lettre en forme verticale, ça représente la descente du Fils dans la chair. Et les deux He, comme un souffle, ça c'est l'Esprit-Saint, à gauche et à droite, comme nos deux poumons. Donc nous invoquons sur nous la présence du Seigneur, nous lui disons notre désir en invoquant son nom dans le signe de croix, qui actualise notre baptême, de nous laisser embrasser par lui et de lui rendre cette embrassade. C'est une réponse, ce signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à l'invitation du Christ lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, celui qui veut être mon disciple. Et donc on met sa croix, c'est celle de Jésus, et aussi notre croix personnelle. Donc ça veut dire que dans la suite de la journée, après un signe de croix, on ne va pas ruminer ou protester quand il y a une galère, une contrariété qui survient. Ça, c'est quand même un petit peu un critère de discernement. Est-ce que je suis sur le chemin de l'évangile ou pas? Est-ce que je reste dans un ressentiment contre le prochain ou contre Dieu en l'accusant des maux de ce monde, alors que c'est par le péché du monde seulement que la mort est entrée? Romains 5, 12. Ou est-ce que j'accepte ces croix comme coopérateur du Christ rédempteur? C'est jamais le Christ qui envoie les croix ou l'épreuve. L'épître de Jacques dit bien, si quelqu'un accuse Dieu de l'éprouver, c'est un menteur. Mais Dieu les permet à proportion de nos facultés et il va toujours donner une grâce proportionnelle. 1 Corinthiens 10, 31, avec l'épreuve, Dieu donne toujours la grâce de la surmonter. Donc plus il y a de croix, plus il y a un secours proportionnel pour que ce ne soit pas une épreuve absurde, mais qu'elle soit une croix féconde. C'est un peu le privilège du chrétien. Tout se transforme en or spirituel pour l'éternité. Il y a une mystique, Gabrielle Bossis, en 1950, elle évoque, en faisant le signe de croix, comme deux barreaux, en disant « mais ainsi, je fais le signe de croix sur moi parce que je veux garder Jésus comme prisonnier de mon être, de mon cœur ». Il y a un autre anglican converti, enfin, qui est devenu catholique, Ronald Knox, 1957, c'était un grand écrivain au XXe siècle, il remarquait qu'en anglais, quand on fait le grand geste vertical du signe de croix qui descend en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est comme le « I », le « moi » en anglais, « je », on dit « I », c'est comme un grand « I ». Alors que le geste horizontal, ça je barre ce « moi », cet « ego » désordonné, donc je renonce à moi-même afin de ne pas renoncer au Christ. Parce qu'en réalité, il n'y a pas tellement d'alternatives. Hein. Soit je me renie moi-même, c'est-à-dire pas mon être, hein, ma dignité. Non, il ne faut pas la renier. On doit s'aimer comme Dieu nous aime. Mais quand on parle de l'ego, ça c'est tout ce qui est abîmé, dysfonctionnel en nous. Et quand je fais donc le trait horizontal de la croix, c'est le signe que j'obéis au Christ, Matthieu 16, 24. Je renonce à moi-même pour quelque chose de meilleur. Ce signe de croix qui nous a été transmis par le Nouveau Testament, on voit dans les Actes un exemple, Paul fit par exemple un signe de la main avant de prêcher. Alors, il y a certains pères de l'Église qui ont interprété, mais là déjà il faisait un signe de croix. Eh bien, c'est l'accomplissement du signe qu'avaient nos cousins juifs des phylactères ou téphilines. Phylactère, c'est comme dans le mot prophylactique, c'est un signe qui nous garde. Alors pour eux, c'est un signe permanent des fils qui sortent du petit talit sous leur chemise. Mais pour nous, l'accomplissement de ce signe matériel, c'est un geste spirituel, un geste physique, mais avec un sens aussi spirituel. C'est une prophylaxie contre les 11 passions de l'âme dont parle Thomas d'Aquin, les péchés, tout ce qui est désordonné. Attache-les sur ta main, porte-les sur le front. Donc ce que les Juifs avaient depuis le Pentateuch, nous l'avons sous la forme du signe de croix. C'est aussi l'opportunité de se rappeler les trésors du jour de notre baptême qui, comme le mariage, se reçoit qu'une fois, mais on en vit tous les jours de cette grâce infinie. Comme le sacerdoce aussi. Et donc on demande au Christ de vivre de cette grâce infinie. Nous sommes adoptés sans mérite de notre part dans la famille divine et on essaie de vivre de ces trésors qui nous font plus riches que Bill Gates ou Elon Musk. Le signe de croix, c'est aussi un signe de notre espérance en mémoire de Matthieu 25, le fameux passage du jugement dernier, avec les brebis à droite, les boucs à gauche. Donc ça, c'est évoqué sur nos deux épaules. Nous sommes faits pas pour nous arrêter au jugement, mais pour passer par le jugement, sans peur, hein, parce que notre juge sera aussi notre avocat. Là, c'est une nouvelle extraordinaire. Mais se rappeler qu'on est fait pour la parousie, on n'est pas juste fait pour passer du bon temps ici-bas en enchaînant des distractions. Ça, c'est le piège de la société de consommation. Mais vivre tout en fonction du ciel. Le signe de croix est aussi un engagement à vivre notre vocation, notre nature de coopérateur de Dieu. Un verset très important, souvent oublié malheureusement depuis Luther par nos frères évangéliques. 1 Corinthiens 3:9, nous sommes coopérateurs de Dieu. Synergoi theou, comme synergie, ça veut dire littéralement travailler avec. Parce que Dieu pourrait nous sauver comme des machines ou des animaux domestiques, mais il ne respecterait pas notre dignité d'image de Dieu et notre liberté. Et donc il nous estime tellement, et aussi il attend un amour réciproque. Il ne veut pas uniquement aimer dans une seule direction, mais il veut une relation réciproque d'amour. Et donc quand je fais le signe de croix en marquant mes épaules au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les épaules, ça représente le service, le travail, avec un peu ma petite force humaine. La tête, c'est la connaissance, et l'amour, c'est le cœur et les entrailles. Donc le Seigneur m'appelle à coopérer, et je l'accepte, je prends un petit engagement à chaque signe de croix. Et enfin, un autre sens important du signe de croix, c'est un exorcisme. Dans tous les exorcismes, on emploie un crucifix pour se rappeler cela, et le démon supporte pas le signe de croix, il s'en va. C'est comme une immense baffe que le chrétien baptisé lui met. Quand c'est fait avec le cœur, c'est un sacramental particulièrement efficace. Thérèse de l'Enfant Jésus, à un moment, elle cite ce signe de croix juste en voyant des croisillons de fenêtres. Ça lui rappelle à chaque fois la croix du Christ et le nom du Seigneur par lequel nous sommes sauvés. Thérèse d'Avila dit que le signe de croix chasse les démons, mais que le problème, c'est qu'ensuite, ils reviennent, parce que c'est un signe momentané. Ce qui éloigne le démon à distance, c'est de faire ce signe de croix aussi avec de l'eau bénite exorcisée. Il y a 4 sacramentaux qui prolongent l'effet des sacrements, 7 sacrements, notamment le baptême, l'Eucharistie et les autres. Et les 4 sacramentaux principaux, je veux dire, authentifiés par les saints et par l'histoire de l'Église, c'est la médaille de la rue du Bac, un des derniers, 18 novembre 1830, parce qu'il y a un engagement explicite du ciel, médaille miraculeuse, le scapulaire du Carmel, 1251 Saint-Simon Stock, avec un engagement au service de notre part et à la protection de la part de la Mère de Dieu. Il s'appelle Simon Stock. Si vous passez en pèlerinage à Bordeaux, à l'entrée de la cathédrale à gauche, il y a son tombeau. C'est un immense saint. Il était anglais, il me semble. Il s'appelle Stock. En anglais, ça veut dire le tronc, parce qu'il vivait ermite dans un tronc d'arbre. Il était parti au Mont Carmel en Terre Sainte, puis il est revenu à la fin de ses jours. Et donc, on lui doit le grand scapulaire que portent les carmélites et la communauté des béatitudes, par exemple, et puis la petite version que tout baptisé laïque peut porter. Petit bout de tissu devant et derrière, ça n'est pas un talisman, ça marche par la foi. Autre sacramental puissant, c'est la médaille de Saint-Benoît. Pas non plus de nouveau de façon magique, mais en connaissant les prières latines, c'est facile de trouver les explications là-dessus. Sur Internet, il est le patron des exorcistes, parce que combien de fois il a été attaqué par le diable, hein, comme les personnes qui font du bien sur la terre, beaucoup de bien sur la terre. Et donc c'est cette petite médaille avec un crucifix et Saint Benoît au verso, avec les prières, notamment les lettres initiales qui sont sur la croix, sont les deux plus importantes. Et puis l'eau bénite avec du sel, qui n'est pas une superstition, comme le disent parfois des évangéliques agressifs envers les catholiques. C'est pas une invocation d'esprit des eaux, pas du tout. C'est révélé, c'est biblique, comme tout ce que fait l'Église catholique. Hein. Deux Rois 13-21, il y a un esprit de mort dans les eaux de Jéricho, la source. Toutes les femmes avortent sans le vouloir. Du coup, ils appellent l'homme de Dieu. Élisée jette du sel avec une jarre neuve dans la source et toute la ville entière est délivrée des esprits de mort. Comme le nom de Jésus a été invoqué sur cette eau et ce sel, les démons ne reviennent pas, ça les brûle. J'habitais dans un sanctuaire en Côte d'Ivoire, ici, au pays Bété, où après plusieurs siècles d'évangélisation et encore beaucoup de sorcellerie, parfois des sacrifices humains pour obtenir des promotions professionnelles, des choses un peu horribles, que 13% de baptisés encore. Mais les sorciers qui sont convertis par les apparitions de la Vierge là-bas, à Issia, disent qu'ils ne s'approchent pas de quelqu'un qui emploie avec confiance et un cœur fervent et qui cherche Dieu et les sacramentaux notamment comme aide-mémoire, comme prolongement des sacrements qu'ils reçoivent. Parce que ce sont eux les démons qui sont brûlés et le monde démoniaque, c'est un monde de terreur entre eux, c'est la guerre permanente. Et donc porter un sacramental, ça les fait fuir et ils s'occupent entre eux de faire leurs guerres internes et ils ne touchent pas un baptisé. Alors qu'autrement, un sorcier est capable, avec un ciel bleu azur, d'envoyer un éclair pour tuer un non-baptisé, par exemple. Alors si nous avons les noms de Jésus, le signe de croix, ces sacramentaux avec nous, quel mal est-ce qui va bien pouvoir nous arriver? Rien. Nous sommes fils du roi des rois, baptisés, confirmés, image de Dieu. Le démon, il n'est rien de tout ça. Donc il a encore plus peur, il est terrorisé par nous, beaucoup plus que nous. Il ne faut pas le voir partout, mais il est quand même agissant. Il faut arrêter de faire les autruches spirituelles. Et pour ça, invoquer le nom de Jésus dans les petites prières de délivrance ou en prière jaculatoire, on invoque « Jésus, sauve-moi ». Ou Marie, le nom de Marie est associé au nom de Jésus. « Marie, Immaculée, Mère de Dieu, passe devant mes pas ». Il y a une prière de la tradition monastique syriaque. Donc les chrétiens araméens qui nous ont précédés, c'était les premiers convertis après les juifs. « Le soir, je fais le signe de la croix sur mon corps pour qu'elle veille sur moi jour et nuit. Ainsi, la nuit, quand je dors et que vient le malin pour détruire mon âme, il voit la lumière de ta croix, ô Christ, et il court se cacher dehors dans l'obscurité de la nuit. Et le matin, je me lève et je t'élève ma louange. » Ce sont des exemples de saints qui intériorisaient ces prières. C'est important de pas rabâcher nos prières, mais de le faire avec le cœur. Combien de fois Marie, dans plusieurs lieux d'apparition, dit « Prie avec le cœur, lisez l'Évangile avec le cœur, communiez avec le cœur ». Et comment on ouvre? Eh bien, par le sacrement du pardon et par des décisions de confiance et de foi. Alors, autre nom de Jésus, après ce nom qui est invoqué avec les deux autres personnes de la Trinité dans le signe de croix, eh bien, c'est « Fils de Marie et de Joseph ». La Sainte Famille est le chemin le plus direct et rapide vers la Sainte Trinité. C'est une petite Trinité sur la Terre. Et si c'est le chemin le plus facile et direct, ça serait un peu bête de ramer comme un fou pour contourner et essayer de se débrouiller par nos propres efforts. Ça, sont tous les chrétiens qui ne prient pas Marie et Joseph. Alors, c'est pas pour critiquer nos frères évangéliques. Hein. Vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique, infidèle à tous les talents qui ont été transmis par l'Église. Mais vu que Dieu a tout disposé, les trésors du salut, la révélation, le magistère, ben on peut être légitimement heureux, sans aucun motif d'orgueil, parce qu'on y est vraiment pour rien, mais en les accueillant et en coopérant à ces moyens qui sont donnés par le bon Dieu. De Marie, Jésus a reçu ce qui est spécifiquement féminin. Alors le monde moderne, avec la confusion des genres, il y a un terme absurde. S'il y a le mot « genre » dans un texte de l'Église, c'est déjà un début d'apostasie, c'est assez grave. Ça nie le premier chapitre de la Genèse, Genèse chapitre 2, un homme et une femme. Donc, il y a une distinction claire entre les deux sexes. Et donc, de sa mère, Jésus reçoit l'accueil de l'autre. C'est le sens même du nom de femme, « nekeva » en hébreu, c'est l'accueil, le réceptacle, la tendresse aussi que donne une mère ou une femme, la douceur, la proximité, la consolation, l'ouverture à la transcendance de façon naturelle. Pourquoi est-ce que dans les assemblées, il y a deux fois plus de femmes que d'hommes dans le monde entier? Parce qu'il y a cette disposition naturelle dans son corps et dans son âme. Ça ne veut pas dire que des hommes ne peuvent pas aussi vivre les mêmes qualités. Mais pour eux, c'est un peu plus compliqué. Ils ont d'autres particularités, ce qu'on va voir maintenant. De Joseph, Jésus reçoit en particulier sa filiation patrilinéaire davidique, c'est-à-dire descendant de la tribu de Juda, donc Messie potentiellement. Né à Bethléem, c'était la ville de la tribu de Juda. C'était pas Jérusalem qui est à cheval sur la tribu de Benjamin et de Juda. Le temple de Jérusalem, par exemple, est sur le territoire de Benjamin. Et il reçoit de son père, que l'on peut identifier par son métier. Joseph et Jésus sont en grec tecton. Ça ne veut pas dire seulement charpentier. Tecton, ça a donné le mot tectonique, des plaques, ça veut dire construction. À l'époque, il y a 2000 ans, il n'y a pas de spécialisation des tâches. Quand on fait la maison, il n'y a pas le plombier, le couvreur, et tous ceux qui font la décoration intérieure. Non, l'entrepreneur, il fait toute la maison, il la livre. Et il fait parfois même d'autres métiers. Les tectones faisaient aussi les charpentes de marine, par exemple, les bateaux. Donc Jésus, il connaît aussi les histoires de pêche un peu, ou d'agriculture, parce qu'il faisait les charrues. Et puis l'archéologie montre qu'en dessous de chaque maison de Nazareth, il y avait un silo pour le blé. Donc il connaît aussi les histoires de l'évangile du semeur, le blé. Ils avaient des lopins de terre. Mais alors donc tectone, ça veut dire constructeur. Comme Dieu le Père est constructeur de l'univers, avec les plaques tectoniques, Eh bien, Joseph, image du Père, et Jésus lui-même, il a le même métier que Dieu son Père, et que Joseph son Père adoptif, constructeur. Ici-bas, en araméen, son métier, ça se dit néguer, qui veut dire patient. C'est toute la patience de Dieu le Père, de Joseph aussi dans les épreuves du début, avec la persécution par Hérode, avec l'enfantement chez Marie qu'il a du mal à comprendre au début, c'est normal. Et donc, on peut invoquer ainsi Jésus comme enfant, fils de Marie et de Joseph, avec les particularités du père et de la mère. En hébreu, l'homme masculin, Joseph, c'est celui qui fait mémoire. Il fait mémoire de l'alliance de Dieu, de tous les bienfaits, de toute sa lignée humaine dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais il y a un autre mot pour dire homme, c'est le mot ish, dont la spécificité que n'a pas le mot femme, isha, c'est la lettre yod, c'est celle de la main, c'est-à-dire de l'action. Donc Jésus, d'une certaine manière, il est assez actif, alors que la femme, dans le mot isha, ce qu'elle a de spécifique, c'est le he final, c'est comme un souffle, donc cette ouverture au Saint-Esprit. Ben, il y a plein de choses que Jésus, quoique fils de Dieu, par sa nature humaine, Dieu a voulu que ça passe par sa mère pour qu'il le reçoive. Il a appris à parler et à marcher de ses parents humains. Il pouvait tout faire miraculeusement si Dieu l'avait voulu ainsi, mais il n'aurait pas assumé toute la condition humaine. Donc il a, comme le dit le Luc chapitre 2, il a grandi en taille, en sagesse. Nous avons dit hier, en évoquant la dernière fois, Thérèse d'Avila, qu'il est bon d'invoquer le Christ à tous les âges de sa vie, donc aussi comme enfant, à tous les âges, donc nourrissons dans la crèche, petit enfant de 3 ans, pas mal de saints l'ont vu aussi à cet âge-là, adolescent, et tous les mystères de l'enfance. Un autre nom important, nous n'avons pas le temps de les creuser chacun, mais c'est juste un résumé. Donc c'est le nom de Seigneur, ça c'est le tétragramme à l'origine, donc les 4 lettres qui sont en hébreu le verbe « être révélé ». Les autres noms de Dieu dans l'Ancien Testament, très souvent ils sont communs avec les autres peuples de l'Ancien Orient, avec leurs idoles. Mais ce tétragramme, c'est vraiment spécifique au Pentateuque et il correspond au verbe « être ». Ce sont les préfixes du verbe « être » conjugué au passé, au présent et au futur. Et quand Paul va prêcher Jésus-Christ, le christianisme, dans la capitale de la philosophie qui est Athènes, il cite cette phrase-là, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Parce que la question de l'être pour la pensée humaine, elle est essentielle. Et pourquoi est-ce que nous sommes et d'où ça vient ? Eh bien, ça vient de la divinité. Et c'est ce qu'exprime ce tétragramme, le nom divin, et qui est attribué à Jésus par Élisabeth, la première, la femme qui confesse, alors que Jésus n'est même pas encore né, la mère de mon Seigneur, Luc 1, 43. Tout à la fin de l'évangile, on a aussi Thomas qui nomme Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Et Étienne, Actes chapitre 7, prie aussi, Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. Et donc il invoque vraiment le Christ comme vrai Seigneur, à l'égal de Dieu le Père, le Seigneur du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, en voyant les cieux ouverts et le Fils de l'homme, Jésus le Seigneur, à la droite du Père. Confesser la Seigneurie, donc c'est lui rendre l'adoration qui lui est due, et prendre la décision aussi d'écouter sa volonté qui est infinie, enfin sa sagesse infinie et sa volonté, et donc accepter d'obéir aux commandements qui pourraient nous déranger ou que parfois nous ne comprenons pas. Question d'humilité et de cohérence. Quand les évêques, par exemple, actuellement rappellent, certains évêques que des députés qui voteraient des lois pro-mort ne peuvent pas communier, c'est pas du tout du chantage, c'est un rappel simplement de la parole de Dieu. Tu ne tueras pas. Puis le catéchisme aussi sur le sujet, le magistère, l'interprétation. Jésus est aussi amour. Alors, nous avons dit la dernière fois que le mot « aimer » en grec, ça vient du verbe « admirer ». En hébreu, c'est un mot qui est très très riche aussi, « ahava », qui inclut le son « a » de l'ouverture à Dieu. On se rend disponible, ouvert à Dieu, « je te cherche ». La lettre « beit », « ahava », le « v » et le « b » comme en espagnol, c'est la même lettre. Le « beit », ça veut dire la maison de Dieu ou la famille de Dieu. Et le « he » de « ahava », c'est l'esprit divin ou l'amour entre le Père et le Fils. Donc quand il est dit « Dieu est amour », 1 Jean 4, 8, ça s'adresse à chacune des personnes de la Trinité, chacune à sa manière, dans ses missions spécifiques envers nous. Mais Dieu entièrement est amour et même circulation d'amour. Quand nous invoquons ainsi Jésus amour, c'est une prière du cœur toute simple, juste dire ceci, Jésus amour, devant le Saint-Sacrement, en rythme avec notre respiration, eh bien, c'est aussi une décision libre de lui rendre amour pour amour en y mettant toute notre volonté et notre détermination, notre persévérance. Aimer, c'est bien plus qu'un sentiment fluctuant ou de la gentillesse. La gentillesse, c'est bien, mais c'est que la partie psychologique, c'est pas tout l'être. Et donc, quand on se laisse aimer et qu'on aime en vérité, c'est vouloir et faire le bien de toute la personne et son bien le plus profond. C'est lui donner notre cœur. Donc en appelant Jésus amour, nous reconnaissons qu'il est la source, avec le Père et l'Esprit, de l'amour en vérité. C'est un abandon confiant de tout notre être à son être. La décision de ne plus peiner l'amour. Imaginons deux personnes qui soient très amoureuses, elles n'ont pas du tout envie de faire la moindre peine à l'autre. Au contraire, se sacrifier, se livrer pour l'autre. Combien plus avec Dieu, en vivant en conformité intérieure et extérieure à notre nature d'image de Dieu. Ça serait assez hypocrite de prétendre aimer quelqu'un et puis de faire le contraire de la volonté de cette personne. Ça lui ferait une peine immense. Et puis ça serait incohérent, inconsistant. Combien plus avec Dieu. Un nom le plus employé de tous parmi les 120 noms du Christ, c'est « Fils de l'homme ». 76 fois dans les évangiles. Si on ne s'appuie pas sur l'Ancien Testament, ben on le dit machinalement sans en comprendre la profondeur. C'est une citation précise de Daniel 7, 13, en particulier, « Un homme venant debout sur les nuées ». Alors, il est homme. Il est vrai homme, mais il est aussi debout sur les nuées, donc vrai Dieu, et il vient pour la fin des temps et le jugement. C'est un des passages apocalyptiques de l'Ancien Testament. Le passage apocalyptique, il n'y a pas du tout que le dernier livre des 73 de la Bible, hein, il y en a d'autres déjà, chez Ézéchiel, chez Daniel en particulier. Et donc en Daniel 7, 13, on annonce la venue du Fils de l'homme. Il est conçu dans l'espèce humaine, naissant, mangeant, souffrant et mourant, ça exprime sa vulnérabilité d'un côté. Il s'est rendu comme un amoureux tout dépendant de notre réponse. Et aussi, vrai Dieu, il reçoit en Daniel 7, et dans les passages où Jésus emploie ce nom, c'est pour révéler son autorité, son pouvoir, pas pour écraser, mais c'est un pouvoir au bon sens du terme, qui ordonne les choses, qui répand le bien. Et à lui, nous, notre réponse, c'est de l'honorer pour sa royauté universelle en lui obéissant. Ce Fils de l'homme, c'est celui qui pardonne les péchés, selon l'évangile de Marc. Le Fils de l'homme est Seigneur même du Shabbat, dit Marc 2, 28, et donc Seigneur aussi de toute la loi et de toute chose. Ce n'est pas que Seigneur du Shabbat. Le grec a mis la conjonction « kai », et il est Seigneur et du Shabbat. Donc on peut le comprendre, même du Shabbat, en plus de tout le reste. Ce Fils de l'homme apparaît dans l'Évangile comme victorieux, et c'est celui qui trône pour le jugement dernier. Donc il est bon de l'invoquer ainsi, dans sa double essence, à chaque fois. Prier Jésus comme Fils de l'homme, on ne le fait pas assez, parce que c'est une expression très sémitique et assez apocalyptique. On a du mal à entrer dans ces textes qui ont plus de 2000 ans, et pourtant ils sont tellement beaux. Fils de l'homme, en araméen, ça se dit Bar Enosh. Et Enosh, c'est pas n'importe qui. C'est pas uniquement l'homme, c'est aussi un personnage précis et unique de l'Ancien Testament, Genèse 4, 26. On peut comprendre l'hébreu de Genèse 4, 26. Énoch commença à invoquer le nom du Seigneur. Donc ça, c'est vraiment le meilleur de l'humanité. C'est la première fois qu'il y a eu une prière d'adoration envers Dieu. Juste après Caïn et Abel, on est au chapitre 4 de Genèse. Mais on peut aussi interpréter ce verset. Énoch profana en appelant le nom du Seigneur. Parce que l'hébreu, il n'est pas vocalisé. Parfois, entre les manuscrits, il y a ce que Jésus évoque en Matthieu 5, 13 et suivant, « Pas un iota, pas un trait ne passera ». Si vous changez un tout petit trait, ceux qui ont fait de l'hébreu, par exemple, entre un bait et un kaf, il y a une toute petite différence. Sur certains manuscrits, elle n'est pas visible. Donc, on peut comprendre ce verset-là, « Enoch profana » en appelant le nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'il s'est divinisé lui-même. Donc, Enoch représente aussi le pire de l'humanité. À la fois le meilleur et le pire, et entre les deux, il y a de la place pour nous tous, pour tout. Tous les êtres humains, 100 milliards selon la science, depuis le premier que la Bible nomme Adam et Ève. Et donc ça nous dit que Jésus, il assume tout le genre humain. Il prend sur ses épaules, il est lui-même vicaire de tous les pécheurs réunis. Il en a pris les conséquences une fois pour toutes sur la croix. Nous n'avons plus à payer, mais simplement à coopérer et à accueillir les fruits pour que le Golgotha, son sacrifice, ne soit pas vain, parce qu'il ne nous forcera pas. Cette figure Bar-Enoch se trouve aussi dans la littérature juive dite intertestamentaire, c'est-à-dire des textes contemporains du Nouveau Testament. Donc ce n'est pas seulement les évangiles qui l'emploient, mais ça nous permet de confirmer l'interprétation de ce beau nom 76 fois « Fils de l'homme ». Tu es celui qui assume toutes mes peines, mes joies, tous les péchés du monde entier, même les faiblesses des personnes que j'ai le plus de mal à supporter, celles que je juge le plus, et tu as versé ton sang pour les sauver. Donc je vais arrêter de les mépriser, je vais essayer de coopérer autant que je peux à ta mission de salut. Et Dieu a soif et il cherche désespérément des coopérateurs, il en trouve peu. Donc ça dépend de nous d'aider notre Seigneur. Cette figure de fils de l'homme, elle est associée par Daniel, toujours au chapitre 7, Daniel 7, à celle de l'ancien des jours. Ceux qui connaissent la spiritualité byzantine, donc l'ancien nom de Constantinople avant Constantin, il y a une icône ou une fresque fréquente. On voit Jésus avec un visage tout jeune, mais des cheveux tout blancs, et puis à côté, au Palaion ton Emeron, ça veut dire l'ancien des jours. Et ça exprime, il est l'ancien parce qu'il était avant le temps. Donc ça dit l'éternité de celui qui vient dans le temps. Éternellement jeune, parce qu'il est la vie, et pas abîmé comme le vieil homme de Romains 6:6 par le péché. Il y a des choses très belles hein, sur l'âge et la sagesse dans l'Écriture, mais Paul parle, il y a aussi cette figure dans les lettres de Paul du vieil homme, ce qui est vieilli, abîmé par le péché, ça sera renouvelé, hein, tout sera rajeuni au moment du salut. Et donc c'est cette figure de l'ancien des jours qui est associée par Daniel au Fils de l'homme. C'est le même, Jésus, Fils éternel, sage, perpétuellement jeune de la vie même de Dieu. Donc on peut l'invoquer aussi, comme devant les icônes grecques, comme l'ancien des jours, tu es éternel, tu étais avant le temps, tu m'as créé sans que je sois nécessaire, seulement par débordement de ton cœur, mais je te rends grâce, je vais vivre de l'Eucharistie tous les jours de ma vie, pas uniquement une heure sur 168 de la semaine quand je vais le dimanche à l'église, mais avoir une vie eucharistique, ça signifie vivre de la grâce reçue et essayer d'imiter l'amour de Jésus livré sur l'autel. De nouveau, les chrétiens, on est vraiment appelés à vivre l'Eucharistie de façon surnaturelle, cette vision du ciel. Certaines églises sont archi-moches, ça ressemble à des garages souterrains ou à des usines avec des poutrelles, peu importe. Il faut se représenter une voûte d'anges, des millions d'anges. Il y a un ange gardien par personne, ça fait un paquet, plus un ange par nation et plein d'autres, les messagers du Seigneur. Et ils sont là et ils se penchent avec sainte jalousie vers nous qui pouvons communier. Et ils louent le Seigneur à ce moment-là. Jean chapitre 3 dit « ils montent et ils descendent ». Donc il y a un trou dans le plafond. Et puis c'est une grande voûte, il y a de nombreux mystiques qui l'ont vu à ce moment-là, au moment de la messe. Le ciel ouvert, Marie à genoux Alors, du point de vue de l'assemblée, c'est côté gauche, à gauche de l'autel, Joseph à droite, jamais séparé, jamais loin de Jésus et de Marie, en adoration avec nous. Vous pouvez oublier aussi le pauvre prêtre de chair, et vous représentez Jésus à ce moment-là, c'est lui qui s'offre en sacrifice comme il l'a fait il y a 2000 ans, ce n'est pas répété mais rendu actuel, on est exactement au même moment, c'est actualisé sous nos yeux qu'au Golgotha il y a 2000 ans, 7 avril de l'année 30, probablement, pour la date. Un nom très important et pas très bien compris par les latins, c'est le verbe ou logos. C'est beaucoup plus qu'une parole. Si notre traduction biblique dit « au commencement était la parole », mais pardon, c'est pas sérieux, c'est ni respectueux de l'inspirateur divin, ni du destinataire. Parfois, les exégètes nous pêchons par sentiment de supériorité en considérant que les lecteurs et auditeurs sont pas capables de comprendre un patois de Canaan un peu rugueux, ou des expressions un peu bizarres. Mais si c'était bizarre déjà dans le texte d'origine, il n'y a pas de raison de le lisser ou d'effacer ces rugosités. La mission du traducteur, c'est de transmettre aussi ce qui est un peu étrange. Et donc le verbe, si quelqu'un dans la rue nous disait, en dehors de Jésus-Christ, on est parfois habitué, mais je suis le verbe, ça serait un peu fou. Donc là, c'était aussi une folie aux yeux et aux esprits des hommes. Et donc ce verbe, Jean a écrit son évangile à Éphèse. Le grand philosophe d'Éphèse, c'était Héraclite, à peu près 400 ans avant, qui est le grand spécialiste du logos. C'est lui qui a développé ce sujet du logos divin, qui n'est pas qu'une parole, c'est la pensée éternelle d'amour dans la divinité. Alors, c'est pas uniquement un sujet grec. Parfois, on a critiqué l'Église en disant « Vous avez complètement hellénisé l'enseignement de Jésus, Rabbi de Nazareth ». Ben non. Ça, c'est, si quelqu'un dit ça, et il méconnaît vraiment toutes les sources araméennes, parce que dans le Targum, qui est la version pratiquée au temps de Jésus de l'Ancien Testament, la Bible en araméen, il y a 650 fois le nom « milta » qui veut dire le verbe. Exactement la même chose. Une pensée d'amour dans la divinité qui se prononce parfois. Et ce verbe est très intimement lié à la Sophia, la sagesse, Chochma en hébreu, qui est un des dons de l'Esprit-Saint. Alors la sagesse, elle est plus intérieure, et le logos, c'est quand la sagesse est prononcée, mais c'est la même personne. Et les écrits de sagesse de l'Ancien Testament, on les appelle les écrits sapientiaux, les écrits de sagesse, parlait de la sagesse éternelle. Parmi les églises les plus magnifiques de l'Orient, il y a Sainte Sophie de Constantinople et Sainte Sophie, Hagia Sophia, pareil, de Nicée, lieu du Concile. Mais il ne s'agit pas de la martyre Sophie, il s'agit de la sagesse éternelle, Dieu lui-même. C'est une église consacrée au Christ. Et cette Sophia, c'est celle évoquée par les écrits de sagesse de l'Ancien Testament, c'est le logos, c'est la pensée éternelle d'amour divin. Donc si vos bibles disent la parole, vous pouvez rayer et mettre le verbe. Il n'y a pas que Jean qui en parle. À chaque fois qu'il y a le mot « parole », notamment dans l'évangile de Luc, vous pouvez remplacer par « logos » ou « milta » ou « verbe » si vous voulez. Et le Christ est en train de parler de lui-même, quand c'est au singulier. Alors, il y a un autre nom biblique lié à celle du logos dans l'Ancien Testament, déjà. C'est Isaïe 9, « l'ange du grand conseil ». Isaïe 9, 5. Et alors, ça se trouve seulement dans la version grecque, et pour ça, c'est indispensable de lire notre Bible dans une version d'étude sérieuse, avec des bonnes notes, et si les notes sont insuffisantes, de rajouter la Bible d'un catholique, elle doit être raturée, coloriée, annotée, sinon, on recommence toute notre vie de travail, comme en classe de 11e, et on n'avancera jamais vraiment dans la science de l'amour. Donc Isaïe 9, 5, dans la version grecque, parle de l'ange du grand conseil. Que veut dire le mot angelos, ange en grec, messager? Eh bien, le messager du grand conseil que la Trinité, évidemment, c'est le Verbe divin qui s'est fait chair, il est envoyé par Dieu le Père. Et ce qui est aussi lié à ce nom du Verbe, qu'il ne faut pas le prononcer de manière abstraite comme un concept, mais c'est vraiment la personne de Jésus. Dieu est amour, il est sagesse, il est la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi l'apôtre. Donc le premier apôtre, bien avant Pierre, c'est Jésus. Il est appelé l'apôtre aussi en hébreu 3, 1. Apostolein, en grec, ça veut dire envoyé loin d'eux. Un petit mot français qui évoque ça, c'est la poste envoyée. Et apo, ça veut dire loin d'eux en grec, ça veut dire qu'il quitte le confort du trône tranquille auprès de son père. Il se décarcasse en venant dans la chair et immédiatement les hommes avec Hérode veulent le trucider. Il est obligé de s'enfuir jusqu'en Égypte et ensuite il finit sa vie apparemment en échec complet, cloué comme on ne le ferait pas un chien sur une planche. Eh bien ça, c'est l'apôtre aussi envoyé par Dieu pour nous annoncer jusqu'à quel point il nous aime, à la fois de façon explicite en parole, le Saint-Évangile, la parole de Dieu, et de façon implicite par toute sa vie, son exemple. Un des noms, personnellement j'aime le plus parmi les 120 noms, alors selon les phases de notre existence, selon peut-être aussi le tempérament de chacun, ça peut changer, hein, c'est pas un problème, on ne peut pas l'appeler de 120 manières à la fois, on a dit hier, ce sont comme 120 touches de couleur sur un tableau impressionniste qui nous montre un portrait plus réaliste de la face, de la personne de Jésus, mais agneau de Dieu, que l'on invoque à chaque messe, c'est aussi un nom de Jésus vraiment bouleversant, et le monde devrait trembler à chaque fois qu'on le prononce. Il s'est offert en sacrifice à ma place. À chaque messe, on dit, par la parole même du Christ, ceci est mon corps livré pour vous. Le pour, c'est peut-être le mot le plus important, enfin un des plus importants, avec donner de la consécration. Parce que pour, c'est pas uniquement pour votre bénéfice, comme en français. En grec comme en araméen, chalephemon, ça veut dire à votre place et à cause de vous. Il y a trois sens. Donc l'agneau sacrifié pour mon bénéfice, pour mon bien, mais merci Jésus. Déjà, c'est vachement bien ça. C'est merci pour tous tes bienfaits, mais c'est encore bien plus puissant et grand que cela. C'est à ma place. C'est moi qui méritais de mourir pour mes péchés, mais toi, tu l'as fait une fois pour toutes, pour nous tous. Et à cause de nous, à cause de mes péchés, donc je vais faire tout ce que je peux pour pas recommencer, pour pas t'infliger rétroactivement ta mort par mes péchés. Je sais que je tomberai encore, mais je sais qu'il me pardonnera encore, mais quand même, communier normalement petit à petit, ça nous motive pour ne pécher de moins en moins, si on le fait en essayant d'avoir une vie eucharistique. Donc ça, c'est le premier sens principal de l'agneau. Quand la première désignation de Jésus au début de son ministère, c'est par Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, en grec, le péché du monde ». Le latin a mis « les péchés », je trouve que c'est un peu moins complet, parce que le grec, comme l'araméen, avec un singulier, dit « le principe même du péché ». Donc aussi ma faculté, ma propension à pécher de nouveau dans le futur, peu à peu tu m'en guéris, tu guéris des 11 passions de mon âme. Mes passions désordonnées, mes péchés. Alors que le pluriel, c'est plus les péchés historiques du passé. Bon, mais disons que ce sont deux sens complémentaires. Quand Jérôme, d'habitude, il est très littéral, mais là, il a mis un pluriel qui enlève les péchés du monde, comme on l'a mis dans le missel depuis 2022. Ça peut aussi vouloir dire tous les péchés du monde entier. Mais si les auteurs en araméen et grec ont mis un singulier, il faut mettre dans sa note de bible d'étude, c'est un singulier, c'est le principe même du péché que tu viens ôter. Premier sens, donc c'est l'agneau sacrifié pour mon bénéfice, à ma place et à cause de moi. Un autre sens de l'agneau, c'est un agneau, c'est celui qui est sans défaut. Il est sans tâche, et donc il est admirable, et donc ça, je commence à l'aimer. Et j'admire l'agneau innocent de la Pâque des Juifs, et Exode 12:5. Dit bien que cet agneau devait être sans aucun défaut, parce qu'il prend, lui qui est le saint et le juste, dit Pierre dans sa prédication de Acte 3, il est le seul sans péché, dit la liturgie byzantine, il ôte le péché du monde, parce qu'il est tellement immaculé, éternellement immaculé avant même la mère de Dieu, qu'il me purifie quand je m'approche de lui de tous mes péchés. Marie est immaculée que depuis sa conception. Jésus, lui, il est éternellement comme fils de Dieu. L'autre sens de l'agneau, c'est celui qui est doux. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux qu'un petit agneau, comme animal ? Jésus ne s'associe qu'à deux animaux, la poule, par humilité. Il aurait pu dire « je suis le lion, je suis l'éléphant », non. C'est la douceur de l'agneau, la douceur parfaite, caractéristique, qui s'oppose à celle du démon. Et puis enfin, c'est l'agneau époux de nos âmes. Donc à chaque fois qu'on invoque l'agneau de Dieu, vous vous rappelez ça, tu t'es sacrifié à ma place. Tu es le doux, le sans tache, et celui qui me propose sans aucun mérite. Aucun roi, aucun milliardaire voudrait épouser mon âme, mais toi, Dieu, roi de l'univers, c'est ce que tu me proposes. Eh bien, je te dis oui quand je vais communier. Nous n'avons pas le temps de continuer, mais je vous invite à consulter les litanies inédites qui sont à la fin de l'ouvrage. C'est une prière qui a 800 ans, qui vient du jardin de la Vierge Marie, le mont Athos. Ça n'a jamais été publié en français. Les litanies au doux nom de Jésus. Donc, ce sont des titres employés par des saints, ces colonnes de prière des moines qui continuent de vivre le monachisme de l'époque de Saint-Antoine le Grand, mais depuis le Moyen-Âge dans cette presqu'île de Grèce. Plein de manières de nommer le Christ sous différents angles. Il y a plein d'autres noms du Christ, on ne peut pas tous les faire seulement en 2 heures. Nous n'avons abordé qu'une partie. Mais le Christ a soif d'entrer en relation de communion avec chacun, avec chaque être humain. Pas uniquement ceux qui le connaissent déjà, et que nous l'annoncions aussi. Il est le bon pasteur, il est tous les « je suis ». C'est pas une description « je suis charpentier » par exemple. Non, il dit pas « je suis charpentier Jésus ». Quand il y a « je suis », à chaque fois, c'est pour une révélation divine. C'est une théophanie, c'est une évocation du buisson ardent. Une révélation que Dieu intervient, qu'il est auprès de nous et qu'il vient nous sauver. À chaque fois qu'il y a cette expression-là, et parfois, il ne dit pas « je suis » avec un complément, mais juste « je suis ». Par exemple, au moment de la tempête sur les eaux, c'est une expression de sa divinité, c'est le tétragramme même, le verbe « être ». Conjugué. Que le nom du Seigneur nous sauve, que nous l'invoquions de tout notre cœur, et que nous le prions fidèlement, avec amour, avec ferveur. Dieu a soif d'être aimé par nous, et nous pouvons le consoler son cœur en quittant toute indifférence, toute ignorance de tout ce qu'il a révélé, mais en faisant fructifier tout ce qu'il a donné à l'Église et aux saints au cours de l'histoire.